Anniva, vous êtes en direct dans la matinale RTN, bonjour.
Oui, bonjour à toutes et à tous, bonjour Julien.
Merci d'être avec nous. On a envie de vous entendre, Anniva, d'abord sur ce qui s'est passé entre vendredi et samedi. Evgeny Prigojine et ses combattants du groupe Wagner ont lancé une rébellion armée contre le ministère russe de la Défense avant de renoncer. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Quelle est votre lecture de l'événement?
Oula, je peux pas vous dire ça en 30 secondes. Hein. C'est pour ça qu'il faudra que tout le monde vienne demain à la Chaux-de-Fonds au Club 44. Mais en fait, ce qui s'est passé couvait depuis bien longtemps. Les relations s'étaient envenimées. Et nous tous, les observateurs de la scène russe, c'était pas un secret d'État que entre le directeur de cette milice, qui officiellement n'est pas censé exister, et l'armée russe, c'était un peu le calme avant la tempête. Donc la tempête a eu lieu samedi, et puis tout a coupé court, tout s'est arrêté, puisqu'il y a eu une volte-face samedi soir, alors que toute la journée, le convoi des mercenaires était en train, on en regardait son évolution, il n'était plus qu'à 400 km de Moscou, puis 300, puis 200. On se disait, quand cette confrontation armée va-t-elle avoir lieu? Moscou était en train de se barricader, et Prigojine, qui en fait avait négocié avec le président biélorusse Loukachenko, qui représentait en quelque sorte à ce moment-là Vladimir Poutine, eh bien a décidé de tout arrêter. Donc je pense que c'est de ça dont il faut parler, parce que ça en dit beaucoup sur la fragilisation du système poutinien qui existe depuis plus de 20 ans aujourd'hui en Russie.
Vous parlez
Des deux côtés, il semble, chacun crie à la victoire, si vous voulez. Vladimir Poutine, bon, n'a pas repris la parole depuis, mais il peut dire qu'il a gagné parce qu'il n'y a pas eu de confrontation armée. Et Prigojine, lui, peut dire qu'il a gagné dans le sens où maintenant son nom est prononcé sur les chaînes d'État de télévision russe, alors qu'avant on évitait de le prononcer, et il est finalement mondialement connu.
Vous avez parlé, Anniva, de fragilité. Pourtant, vu d'ici, en ce qui concerne en particulier le conflit ukrainien, on a l'impression, d'une société russe qui fait bloc derrière Vladimir Poutine pour soutenir l'effort de guerre contre l'Ukraine. On a tort de voir les choses de cette manière? La réalité est plus complexe?
Ah ben ça, c'est clair, ça va sans dire. C'est pour ça que ça fait plus de 30 ans que j'essaie de comprendre ce qui se passe en Russie et qu'il ne faut pas analyser ça en noir et blanc. Mais quand je disais fragilisation, je parlais du système poutinien. Je ne parlais pas du tout de la société russe. Et la société russe, il faut vraiment différencier les deux. Vous avez d'un côté, mais comme tous les pays, il n'y a pas qu'en Russie. Dans tous les pays, il y a un système politique et puis il y a la société. Mais là, on parle de ce qui se passe en Russie. Et en Russie, bien, la société est mise devant le fait accompli du fait du prince, finalement. C'est-à-dire cette invasion militaire de l'Ukraine qui a été décidée par un seul homme, visiblement, le 24 février 2022, même si on se doute bien qu'elle n'a pas été décidée dans la nuit du 23 au 24 d'un coup de tête. Il y a eu donc une préparation. Là aussi, les relations s'étaient envenimées entre l'Ukraine et la Russie depuis un certain temps. D'ailleurs, la guerre avait déjà commencé en 2014, ça il faut le souligner aussi, entre l'Ukraine et la Russie. Et personne en Occident n'y prêtait véritablement attention. C'est depuis que cette guerre, cette invasion militaire par la Russie en Ukraine menace, disons, fait très peur aux autres pays qui ne sont pas si loin que ça géographiquement, c'est-à-dire nous tous en Europe, qu'on se met à en parler un peu, beaucoup, voire même parfois peut-être trop, dans les médias occidentaux. Vous savez comment sont les médias, c'est soit rien, soit tout, il n'y a rien entre les deux, malheureusement.
Et ici, on a de la peine à entrevoir une fin à ce conflit, tant côté russe que côté ukrainien. Quelle pourrait être la porte de sortie, selon vous?
Là, c'est pareil, je ne peux pas vous dire ça en 30 secondes, parce que justement, ça serait faire du noir et blanc, ce que je me refuse à faire, et des supputations, ce que je me refuse à faire aussi. Suivons au contraire les faits au jour le jour, et pour le moment, dans les faits, il n'y a aucune victoire militaire claire dans aucun camp, c'est-à-dire ni côté ukrainien, ni côté russe, il n'y a de victoire militaire claire. Or, c'est bien avec une victoire militaire claire que pourront être jetées les bases, le socle d'un avenir pour les relations entre ces deux pays. Mais je le répète, pour le moment, il n'en est pas question. Il y a une volonté des deux côtés de continuer parce que des deux côtés, on se dit qu'on peut gagner cette guerre. Il y a encore le côté ukrainien, très certainement, mais du côté russe, bien également, il y a une quasi-conviction, en tout cas de la part de Vladimir Poutine, qu'il peut encore gagner cette guerre. Maintenant, que cela corresponde à la réalité ou pas, ça n'est pas ce que je suis en train de dire, mais je suis en train de dire que Vladimir Poutine, lui, est droit dans ses bottes, qu'il vit dans son monde, dans une vision du monde qui n'est pas du tout la nôtre, Et justement, ce qui s'est passé ce week-end en Russie le prouve, c'est-à-dire, et ça n'est pas ce qui s'est passé avec Prigojine, qui va faire changer, si vous voulez, Vladimir Poutine de façon de penser.
Guerre en Ukraine, plongée dans la société russe, c'est le titre de votre conférence, Anne Niva, à voir au Club 44 de la Chaux-de-Fonds demain à 20h15. Anne Niva, merci de vos réponses, excellente journée.
Merci à vous toutes et à tous, au revoir.